Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce carnet de région, un journal d'actualité régionale réalisé en collaboration avec plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Et pour cette semaine, c'est Radio Escapade qui s'est occupée de sa mise en onde. Au programme du carnet de région pour cette semaine, nous irons dans le Gard pour commencer pour parler des maisons de l'emploi. Nous ferons ensuite un tour dans l'Aude, toujours pour parler emploi, mais plus spécifiquement d'apprentissage. Ensuite, direction la Lozère pour évoquer le développement culturel sur ce département. Et enfin, nous terminerons ce carnet de région dans l'Hérault avec le thème de la nourriture servie aux enfants dans les centres de loisirs de la communauté des communes du Clermonté.
Carnet de région. L'actualité en Languedoc-Roussillon.
En 2005, à l'initiative de l'ancien ministre Jean-Louis Borloo, étaient créées les maisons de l'emploi, des structures destinées à s'adapter aux problématiques locales sans se substituer aux organismes déjà existants comme le Pôle emploi. À ce jour, 195 maisons de l'emploi ont vu le jour sur le territoire français, dont 10 dans notre région. Cette semaine, la maison de l'emploi du Grand Alès en Cévennes, qui couvre un territoire de 117 communes, fêtait ses 3 années d'existence. L'occasion donc de faire un premier bilan. En chiffres, ce sont plus de 9000 personnes accueillies, 400 ateliers proposés et plus de 70 partenariats établis avec des structures locales œuvrant pour l'emploi, la formation et la création d'activités. Alors qu'est-ce qui différencie une maison de l'emploi d'une agence de Pôle emploi? Les réponses croisées de Marc Peyroche, directeur de la maison de l'emploi du Grand Alès, et de Karine Valencia, directrice d'une des agences de Pôle emploi à Alès.
On est, nous, sur un dispositif d'information de premier niveau concernant les demandeurs d'emploi. C'est-à-dire qu'on sur un demandeur d'emploi qui passe la porte de la maison de l'emploi, d'abord c'est un accueil qui est anonyme, sans rendez-vous, et on est là avec des conseillers en emploi et en insertion pour les orienter sur leur recherche de formation, mettre à jour leur CV, pouvoir postuler sur des offres sur Internet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'outil informatique n'est pas quand même un outil qui est utilisé aussi facilement que ce qu'on pourrait le croire, même parfois sur des publics jeunes, on est parfois étonné. Alors ils savent sur leurs réseaux sociaux écrire et fonctionner, mais lorsqu'il faut remplir un CV en ligne ou répondre à une demande d'offre d'emploi par Internet, puisqu'aujourd'hui un certain nombre d'offres d'emploi de Pôle emploi sont accessibles par Internet, nous on est là pour les guider, les orienter, les aider à mettre en œuvre ce dispositif. On ne fait pas du tout ce que fait Pôle emploi, mais Karine Valencia va mieux vous l'expliquer.
Alors précisément, Karine Valencia, une maison de l'emploi, c'est qu'est-ce que c'est? C'est concurrent, complémentaire de Pôle emploi?
C'est vraiment complémentaire. Il n'y a vraiment pas de compétition, de concurrence entre une maison de l'emploi et Pôle emploi. C'est-à-dire que la maison de l'emploi, quand vous franchissez la porte de la maison de l'emploi, vous pouvez avoir accès évidemment à l'emploi, mais vous aurez accès aussi à plus de choses. Vous s'occupez des freins, si vous voulez. Il y aura du social que vous ne trouvez pas forcément en Pôle emploi. La maison de l'emploi aussi, c'est un lieu qui permet, comme je disais, à tous les partenaires de se retrouver. Chacun donc est expert dans son domaine. Vous avez Pôle emploi, vous avez les MLI, vous avez le PLI. Et ça permet justement de voir ce qu'on peut faire pour l'emploi. Vous comprenez? C'est vraiment la maison de l'emploi, c'est vraiment une maison où à un moment donné, tous les partenaires se posent, on lève un peu la tête du guidon, parce que vous savez très bien que c'est que chacun dans nos structures, nous avons énormément de travail. Donc on lève la tête dans le guidon et on dit voilà, qu'est-ce qu'on fait? Voilà nos actions. Et la connaissance de l'autre permet de répondre au mieux aux besoins du terrain.
Quel est concrètement le rôle de Pôle emploi au sein de la maison de l'emploi?
C'est d'apporter notre expertise. Notre expertise de l'emploi, c'est les chiffres, hein, parce que donc, la maison de l'emploi, avec la direction régionale, reçoit beaucoup de statistiques. Et c'est l'expertise, c'est quelqu'un, par exemple, un demandeur d'emploi ou un actif, ou quelqu'un franchit, par exemple, la porte de la MDE, ne sait pas forcément vers qui se tourner. Est-ce que c'est Pôle emploi? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de voir la CAF pour le RSA? Est-ce que j'ai besoin... Voilà. La maison de l'emploi va lui dire « voilà ». Elle ne va pas faire notre travail. Elle va dire, voilà, vous venez de perdre votre travail, ben, prenez contact avec Pôle emploi. Que la personne, si elle a l'ordinateur, si elle le fait chez elle, Pôle emploi.fr pour s'inscrire, mais si elle est accompagnée par la MDE, l'entrée, qu'importe l'entrée, il a eu un service, et c'est ce service que fait l'AMDE aussi, qui viennent, alors soit il y en a qui viennent eh bien, à Pôle emploi, mais ils peuvent très bien venir à l'AMDE.
La région Languedoc-Roussillon compte donc 10 maisons de l'emploi, soit autant d'associations, avec chacune à leur tête un président, et l'ensemble de ces 10 maisons de l'emploi sont régionalement représentées par un élu, normalement issu de la majorité présidentielle. Max Roustan, maire UMP d'Alès, était le représentant de l'ancienne majorité présidentielle. L'élu, désormais démissionnaire, cherche maintenant un remplaçant à ce poste, lequel est purement honorifique. Or, les candidats ne semblent pas, pour l'heure, se bousculer, selon Marc Perroche.
D'occuper une fonction honorifique qui était le représentant régional des 10 maisons de l'emploi du Languedoc-Roussillon. Cette représentation régionale avait été construite avec les gouvernances des 10 maisons d'emploi. Et à l'époque, le choix qui avait été fait, c'est de s'inspirer du fonctionnement d'Alliance Ville-Emploi, qui est une structure qui a autant d'élus de droite que de gauche, ce qui permet, ben, lorsqu'il y a une alternance, qu'il y ait une continuité de la structure et du fonctionnement de la structure. Donc il avait été décidé que le président de l'Union régionale soit un élu parlementaire de la majorité présidentielle et son suppléant soit quelqu'un de l'opposition. C'était le cas jusqu'à maintenant. Max Roustan était le représentant régional des maisons de l'emploi. Jacques Bascou, qui était le député maire de Narbonne socialiste, était le suppléant. Aujourd'hui, on est en train de rechercher un titulaire, puisque le suppléant, c'est le sénateur maire de Béziers, Raymond Couder, qui a accepté la fonction. Il ne nous manque plus qu'à trouver un élu parlementaire socialiste qui voudra prendre la suite de Max Roustan. On est en train de travailler, entre autres, sur l'Aude. On avait travaillé sur l'Hérault, on n'avait pas débouché. On est en train maintenant de travailler sur l'Aude de façon qu'on ait à nouveau un représentant régional.
L'avis de recherche est donc lancé auprès des parlementaires régionaux. C'était un reportage de Radio Grille Ouverte réalisé par Yves Defago.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Et on continue à parler emploi, mais on va dans l'Aude maintenant avec la mise en avant des contrats d'apprentissage par les pouvoirs publics sur ce département. Cette voie est souvent décriée, mais elle apparaît aujourd'hui comme une véritable solution d'avenir. C'est en tout cas le message qu'a voulu faire passer mardi dernier à la Chambre de commerce de Narbonne Madame Marie-Paul Bardèche, sous-préfet de Narbonne. Elle a pour l'occasion rencontré une trentaine de jeunes. Elle est interviewée par téléphone par Éric Boyer de RCF.
Il n'est pas trop tard à la mi-octobre, contrairement à une idée reçue, de recourir encore à un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Des contrats peuvent être conclus jusqu'à la fin de l'année. Et près de 8 jeunes sur 10 qui ont recours à l'alternance trouvent un emploi à l'issue de leur contrat. Nous voulions indiquer et faire savoir, et nous avons eu une trentaine de jeunes qui sont venus et qui ont pu être orientés, que ces formules par alternance peuvent encore à la mi-octobre être mises en œuvre.
Est-ce qu'il faut encore changer les mentalités sur l'apprentissage ?
Oui, parce que souvent l'apprentissage est ressenti comme un second choix, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous avons des formules par apprentissage qui sont de tout niveau, d'ailleurs, qui vont du CAP au diplôme d'ingénieur. Ici, dans le bassin d'emploi de Narbonne, nous avons certaines entreprises, la Comurex, par exemple, qui forment des ingénieurs.
Marie-Paul Bardèche, pour terminer, vous êtes confiante de la bonne réceptivité de ces jeunes, de l'alternance, de cette nouvelle solution pour eux ?
Oui, il y a eu des jeunes qui étaient très motivés. Souvent, s'ils ont fait des démarches tardives, c'était parce qu'ils ont été occupés cet été avec la saison touristique. Ils terminaient effectivement des contrats et tous avaient des objectifs, voulaient également échanger sur leurs projets, valider leur orientation et ils avaient une forte motivation. Donc, les services sont là à disposition pour orienter, pour renseigner et pour apporter un accompagnement.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
La semaine dernière, l'État, le Conseil général de Lozère, la ville de Marvejols et la ville de Saint-Chély-d'Apcher ont signé une convention pour le développement culturel dans le cadre du dispositif Culture Partagée. Ce dispositif vise à aider des projets culturels de territoire menés dans des zones rurales ou périurbaines, géographiquement éloignées de l'offre artistique. En région, trois projets ont été sélectionnés, dont celui de Cologne-Margeride. Ainsi, le théâtre de la Mauvaise Tête, l'ADA Seine-Croisée, le ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher ou encore Saint-Alban Art et Culture en psychothérapie institutionnelle ont bénéficié de 20 000 euros en 2011 et de 36 000 euros en 2012 pour mener à bien des projets. Alors sur quels critères le projet lozérien a été sélectionné? La réponse de Jean-Pierre Besson-Vaille, référent du pôle politique des publics à la DRAC Languedoc-Roussillon.
On a pris les critères qui nous étaient donnés par le ministère, donc la prise en compte de la politique des publics, la capacité à mutualiser, à travailler ensemble au niveau du territoire, le développement de pratiques autour du numérique, un certain nombre d'axes qui nous ont permis d'avoir une approche de sélection, hein. Au départ, c'était 8 territoires régionaux qui candidataient et on en a retenu 3. Donc l'agglo de Carcassonne, parce qu'elle a la caractéristique d'être à la fois sur de l'urbain et du rural, problématique qui était ciblée là aussi. La communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup, parce que là aussi, dans un espace périurbain entre Piémont-Sévenol et aire métropolitaine autour de Montpellier, et donc avec des enjeux là aussi. Et puis ce territoire qui est Cologne-Margeride, donc, parce que des initiatives fortes au niveau du territoire, une approche sur la durée. Côté ADA Seine-Croisée, maintenant Seine-Croisée, un certain recul du côté du théâtre Mauvaise Tête, une histoire, une vraie compétence en la matière, un projet naissant avec le ciné-théâtre, hein, là aussi, donc quelque chose qui émerge et avec une vraie volonté politique d'accompagner, et ensuite qu'une institution dans le domaine hospitalier, mais qui est aussi un lieu de référence dans le domaine du patrimoine et de la culture, avec l'hôpital de Saint-Alban et la dynamique apportée par l'association de psychothérapie institutionnelle. Donc on avait tous les ingrédients sur ce territoire pour créer justement la synergie, la mutualisation entre acteurs, avoir un niveau d'exigence, tous ont un niveau d'exigence dans leur politique culturelle et artistique, et surtout fait une vraie sensibilité à la question des publics.
C'était un sujet de Ludovic Terrol de 48 FM Mende. Et on reste en Lozère et dans la culture pour faire un zoom justement sur le dispositif des scènes croisées que l'on vient d'évoquer il y a quelques instants. Cette association départementale de développement des arts et scènes conventionnées de la Lozère poursuit une mission de service public, à savoir la programmation d'une saison itinérante de spectacles d'art vivant, ainsi que l'accompagnement d'artistes, notamment par l'organisation de résidences. Nicolas Blanc, directeur de ces scènes croisées de Lozère, nous en dit un petit peu plus et il répond donc aux questions d'Anna Ménétrier de 48 FM Florac.
Donc scènes croisées de Lozère est une structure qui a été créée dans les années 80. Au départ, c'était ce qu'on appelait une association départementale qui était plutôt sur des missions d'accompagnement des politiques culturelles et notamment de développement de ce qu'on appelle l'enseignement artistique et notamment l'enseignement musical, avec un axe de travail plutôt sur les questions pédagogiques et de travail sur les pratiques artistiques. Et en fait, le travail qui a été conduit à l'origine, hein, par Jean-Pierre Sciorra a évolué au fil des ans sur la base d'un constat qui était une forme de carence d'artistes en Lozère. Et pour développer les pratiques artistiques, puisqu'on parlait bien de ça à cette époque-là, que ce soit la musique, la danse, le théâtre, il était nécessaire de travailler avec des artistes, en fait. Donc au fil des ans, l'association a initié des formes de résidences d'artistes, a invité des artistes à travailler avec les scolaires, avec les écoles de danse, les ateliers de théâtre, etc. Et dans les années 2000, en fait, le ministère a eu l'idée de renforcer une mission qui était assez peu développée en Lozère, qui était celle de la diffusion du spectacle vivant, en fait. On a aujourd'hui une mission de programmation de spectacle et d'organisation d'une saison sur l'année, pluridisciplinaire, en musique, en danse, en théâtre, en jeune public aussi, mais avec un caractère particulier compte tenu de la spécificité du territoire, qui est que cette scène n'a pas été dotée de lieu, mais qu'on lui a demandé de travailler en partenariat avec différents établissements en Lozère, associations, collectivités, etc., qui fait que cette scène a une mission itinérante et une programmation itinérante sur les territoires de la Lozère. C'est pas la nature du partenaire qui nous interpelle, c'est son envie, son désir d'accueillir du spectacle, en fait, de développer des partenariats avec nous. On est ouvert à tout type de partenariat, en fait. On travaille dans le cadre d'un projet, ce qu'on appelle un projet artistique, puisque c'est une autre spécificité de cette association, puisque c'est une association, c'est qu'elle est, elle bénéficie d'un label du ministère de la Culture, qui est celui des scènes conventionnées, et que ce label est assorti d'un cahier des charges. On a une mission particulière qui nous est donnée, qui est celle de promouvoir les écritures contemporaines ou les écritures du spectacle d'aujourd'hui, de promouvoir à la fois des artistes émergents, des formes tout à fait actuelles, que ce soit dans les écritures dramatiques comme le théâtre, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le cirque. On essaye de montrer ce qui est le plus d'aujourd'hui. Voilà, c'est pas très joli en le disant comme ça, mais au moins ça a le mérite d'être clair.
Et vous pouvez retrouver toutes les infos pratiques et les possibilités d'abonnement sur le site internet www.scènecroisée.fr. Sachez que la prochaine date, c'est samedi 20 octobre à Langogne, avec le concert des Hurlements de Léo et le groupe Yaros en première partie.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Et pour finir ce carnet de région, nous allons faire un tour dans l'Hérault où la communauté des communes du Clermontais a profité d'un appel d'offres pour changer de prestataire en matière de restauration cet été dans ses centres de loisirs ainsi que dans les cantines des ALAE, les accueils de loisirs associés à l'école qu'elle gère aussi sur son territoire. L'occasion donc d'améliorer les repas servis chaque jour avec l'aide de produits locaux. Richard Fernandez, le responsable du service enfance-jeunesse de la communauté de communes, revient sur les choix qui ont guidé la collectivité.
Là, c'est quelque chose qui va amener une grosse plus-value au niveau des repas. Et je crois que déjà, dès cet été, on a voulu tester ce service-là sur les vacances, puisque là, on a beaucoup de types de repas qui ont été très, très intéressants et surtout variés. Voilà, mais depuis le transfert des ALAE, on est de plus en plus sur le terrain et notamment avec la population qui augmente. De ce fait, les volumes de repas ont augmenté et à un moment donné, avec le service finance, il a fallu qu'on passe un marché puisqu'on était, on est actuellement sur environ un volume de 50 000 repas par an. Donc c'est vrai qu'on a pris un bureau d'études qui nous a permis justement de monter un cahier des charges qui correspond aux attentes des parents et des enfants aussi. Ce marché a pris effet depuis les vacances donc de juillet de cet été et ça nous a permis de tester, comme je disais tout à l'heure, donc d'avoir des repas froids, des pique-niques et on a une grosse nouveauté aussi, ce sont les barbecues qui ont pu être faits tout au long de l'année avec des barbecues itinérants. Donc ça, ça a été la plus-value. Au niveau de l'ALAE, donc depuis septembre, alors là c'est beaucoup plus, je dirais, conventionnel puisque les enfants mangent à table tous les jours. Et là effectivement, quand on regarde les menus, il y a un élément bio ou circuit court dans chaque repas et un repas éco-responsable chaque semaine. Et donc effectivement, on est sur des circuits courts, de proximité. Je prends l'exemple, la viande, c'est un rayon de 200 km autour de Narbonne. Voilà, ça, ce sont des petits détails. Ils ont aussi leur propre chaîne de culture avec des maraîchers sur lesquels ils ont systématiquement des produits frais de la région.
Implanté à Gigean dans l'Hérault, le nouveau prestataire API répond visiblement aux attentes de la collectivité, avec en plus la mise en place d'un repas éco-responsable par semaine à la cantine et sans augmentation du prix du ticket.
Au-delà du produit bio ou éco-responsable, ou circuit court dans chaque repas tous les jours, il y a un repas éco-responsable. Alors, ce n'est pas un repas bio parce que ce n'est pas issu que de l'agriculture bio. Par contre, ce sont toujours des repas faits dans la région et avec les produits de saison aussi, chose qu'on a voulu absolument. Non, on n'a pas du tout augmenté le prix du ticket. Ça nous a permis aussi de retravailler sur un gros volume. Et le fait de travailler sur un gros volume aussi, ça a permis aux prestataires qui cherchent malgré tout à s'implanter, puisque pour l'instant, c'est un prestataire aussi qui est de... c'est un groupe qui est national, voire international, mais qui est quand même implanté avec une cuisine centrale à Gigean. Donc là aussi, on a voulu une cuisine de proximité. Pour l'instant, on est, je dirais, en phase de calage. On a une réunion la semaine prochaine pour faire un bilan de notre côté et du côté d'API, parce que c'est vrai que ce sont de nouveaux circuits, ce sont de nouveaux secteurs d'activité pour eux. Donc on essaye de voir si tout se passe bien. Pour l'instant, ça fonctionne.
C'était un sujet d'Alain Mendez de Radio Lodève.
Carnet de région.
Gare.
Aude.
Lozère.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'est la fin du carnet de région pour cette semaine, le journal d'information réalisé par plusieurs radios associatives du Languedoc-Roussillon. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles actualités régionales.